VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Ici à Bamako, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. RDC, au moins deux officiers de l'armée congolaise ont été tués dans de violents affrontements avec des présumés rebelles ougandais des ADF près de Beni dans l'est du pays. Nous déplorons la mort de deux colonels tombés lors de ces attaques surprises des ADF, a déclaré à l'AFP le capitaine Mac Azoukai, porte-parole des FARDC, l'armée nationale congolaise dans la région, en dressant un bilan provisoire des combats du week-end. Les attaques de trois positions des FARDC par des rebelles ougandais de l'Alliance des Forces démocratiques Ali et ADF dans la région de Beni ont commencé samedi, suivies de la riposte des forces gouvernementales dimanche, selon l'armée congolaise. RCA, sévère mise en garde du président centrafricain Faustin Archange Touadéra au groupe armé qui sévise dans le pays. La justice sera implacable, souligne le président Touadéra. Un avertissement lancé alors que la communauté internationale s'inquiète des risques de génocide en Centrafrique, un pays ravagé par des conflits depuis 2013. Gabi Dorsil.
Je demande aux groupes armés d'arrêter toutes les hostilités conformément à leurs engagements, a déclaré le président Touadéra dans un discours marquant le 57e anniversaire de l'indépendance de la RCA. Cet appel sera-t-il suivi? Impossible de pronostiquer puisque plusieurs autres appels sont jusqu'ici restés sans effet. Quoi qu'il en soit, une cour pénale spéciale qui doit instruire et juger les multiples crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis en Centrafrique depuis 2003 devrait commencer son travail d'enquête vers octobre prochain. Des actes de violence ont été enregistrés récemment dans le centre, le nord, le sud et l'est du pays et au moins 60 personnes ont été tuées. Cependant, Bangui, la capitale, a été épargnée. La reprise des opérations des groupes armés serait liée au départ de la force française Sangaris, souligne l'agence France-Presse qui rappelle que les interventions françaises et onusiennes ont contribué à réduire les violences en Centrafrique, même si la paix n'est pas revenue totalement dans le pays.
Kenya, la vie reprend timidement aujourd'hui à Nairobi. Les sympathisants de l'opposition kenyane ont été priés de rester chez eux par leur leader Raila Odinga, qui réfléchit sur la marche à suivre pour mieux s'opposer à la réélection du président Uhuru Kenyatta. En signe de deuil pour les victimes des violences, dont une fillette de 9 ans, qui ont perdu la vie entre l'annonce de la victoire de M. Kenyatta vendredi soir et samedi soir, Raila Odinga a demandé à ses partisans de ne pas travailler ce lundi et d'attendre qu'il annonce sa stratégie. Rosine Monizero.
Sorti de son mutisme qu'il observait depuis l'annonce des résultats vendredi soir, Raila Odinga a promis hier qu'il ne renoncerait pas à contester la réélection du président sortant. Il devrait préciser sa stratégie demain mardi, mais il a écarté un recours devant les instances judiciaires, appelant plutôt ses partisans à ne pas s'aventurer dans la rue pour leur propre sécurité. Toutefois, M. Odinga était dimanche dans deux des bastions de l'opposition, Kibera et Matare, au milieu d'une foule qui scandait des slogans hostiles au pouvoir et rejetait le verdict annoncé par la commission électorale et apparemment corroboré par les observateurs internationaux. Le chef de file de l'opposition kenyane a demandé à ses partisans de rester chez eux aujourd'hui en signe de deuil pour les victimes des violences électorales qui ont fait au moins 16 morts depuis vendredi. Les correspondants de presse ont signalé des affrontements violents hier, mais ces incidents ont été circonscrits dans les quartiers favorables à l'opposition.
Afrique de l'Ouest maintenant, 18 personnes, dont plusieurs étrangers, y compris un Turc et un Français, ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi lors de l'attaque par des djihadistes présumés d'un café-restaurant de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. L'attaque a été lancée dans la soirée par deux hommes armés qui ont ouvert le feu sur les clients du restaurant Istanbul sur l'avenue Kwame Nkrumah. D'où la réplique des forces de l'ordre dont les opérations contre les auteurs de l'attentat ont duré toute la nuit. Les assaillants s'étant retranchés dans le café situé à quelques dizaines de mètres d'autres établissements, attaqués de la même manière en janvier 2016. Dans une déclaration ce lundi, le président burkinabé Rochmar Christian Kabore a condamné ce qu'il a qualifié d'attentat ignoble, en assurant que le Burkina Faso se relèvera de cette épreuve car son vaillant peuple opposera une résistance sans concession au terrorisme, dit-il.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Mali, un casque bleu et un soldat malien ont été blessés et deux assaillants tués ce lundi lors d'une attaque contre un camp de la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. des présumés djihadistes sont tirés sur le camp de la mission de l'ONU, la MINUSMA, à Douenza, dans le centre du pays. Un soldat malien a été blessé ainsi qu'un casque bleu. Deux assaillants ont été abattus, a déclaré à l'AFP un élu de la localité. Les assaillants ont été repoussés. Toujours au Mali, ultimatum de la plateforme Anté-Abana. Touche par ma constitution au président Ibrahim Boubacar Keïta. Cette coalition donne au chef de l'État jusqu'au 15 août 2017 minuit pour retirer son projet de réforme constitutionnelle, faute de quoi elle entamera une campagne de désobéissance civile. On écoute Thiébili Dramé, président du Parena, membre de la plateforme Anté-Abana.
Nous considérons que l'ordre républicain est menacé quand le président de la République viole la Constitution. Et en violant la Constitution, il viole son serment. Parce que dans son serment, il jure devant Dieu et devant le peuple malien de respecter et de faire respecter la Constitution. Alors, en initiant une révision constitutionnelle qui viole l'article 118 de la Constitution, le chef de l'État viole son serment.
Thiébili Dramé, président du Parena, membre de la plateforme Anté-Abana au Mali. Retour à l'Afrique centrale avec de l'inédit au Tchad, où le chômage oblige les jeunes garçons à se déguiser en femmes pour séduire les hommes, surtout dans les débits de boissons, nous dit de N'Djamena notre correspondant André Kodmajingar.
À N'Djamena, capitale du Tchad, les jeunes garçons se méfient désormais de jeunes filles en groupe ou celles qui défilent ces derniers temps dans les maquis ou débits de boissons. Car toute personne habillée ou féminine fréquentant les débits de boissons n'est pas forcément une femme. Certains jeunes garçons en complicité avec ces filles en quête des compagnons pour la nuit se métamorphosent et infiltrent le milieu en ce temps de crise économique où les indicateurs sont au rouge. Un jeune homme victime de ce cafouillage corporel témoigne sous l'anonymat.
Nous étions sortis avec mes cousins. On buvait tranquillement. En ce temps, il y avait deux filles qui nous ont approchés. On a trouvé que c'était des filles. Après la fin de la soirée, on a décidé de rentrer à la maison. Mais une fois arrivés à la maison, nous, on a essayé de vérifier. Mais on s'est rendu compte qu'effectivement, au lieu d'une fille, c'est plutôt un garçon. Et c'est ce qui nous a tellement paru un petit peu bizarre.
Le jeune homme, pris en flagrant délit, trouve que cette activité contribue à la dépravation des mœurs. Mais, désœuvré, il se livre à ce jeu pour sa survie.
Ce n'est pas pour la première fois que je me suis déguisé en femme pour aller dans des débits de boissons. Je séduis facilement les hommes parce que j'ai la morphologie féminine. Et c'est un moyen de vivre pour moi pendant ces temps de crise où il n'y a pas de travail. Je sais que c'est honteux pour un homme de pratiquer cette activité. Mais c'est parce que tous mes parents me rejettent que je me retrouve dans cette situation. Ma mère est décédée et je vis avec ma tante. Celle-ci n'est même pas au courant de la vie que je mène. Je préfère mourir que de vivre cette honte.
Pour le sociologue Mbédé Félix, ce comportement peut être l'une des conséquences de la crise financière et économique, mais il peut être également lié aux anomalies morphologiques de l'homme lui-même.
C'est un phénomène anormal. Le problème, c'est que nous sommes une société qui est sous influence aujourd'hui de l'Occident, mais dans le cadre de notre société, ça blesse les mœurs. Je dirais qu'il y a trois explications à ce phénomène. Il y a la question de la biologie. Il y a des individus qui sont bisexués. Quand vous les voyez même dans leur apparence physique, parfois vous vous demandez, mais c'est une fille ou c'est un garçon? C'est pas parce que vous avez faim, vous êtes dans la misère, que vous pouvez prendre plaisir à vous déguiser pour devenir une femme. La conséquence, c'est que l'acte de sodomisation va arriver, donc l'homosexualité. La troisième observation, dans la plupart des sociétés, les pouvoirs demandent à certains services de renseignement, de l'espionnage, autres, de se déguiser en femme pour pénétrer certains milieux. Nous l'avons vu sur des questions sécuritaires, les fous de Dieu, entre guillemets, les Boko Haram à l'époque, certains portaient des bombes avec des tenues de femmes. Et là, ce n'est pas pour des questions ni économiques ni sexuelles, mais c'est pour atteindre parfois des buts machiavéliques.
André Kodmajingar N'Djamena, VO Afrique.
Pour terminer la crise migratoire en Europe, un nouveau tournant dans le problème posé par l'afflux des migrants provenant de la Libye, avec l'annonce par Tripoli de l'intensification des contrôles au large des côtes libyennes, une mesure qui affecte directement les ONG opérant dans la zone. Exemple, la décision des autorités libyennes a contraint l'organisation Médecins sans frontières à suspendre les opérations de prudence, le plus gros navire de secours aux migrants en Méditerranée. Deux autres organisations non gouvernementales, CIA de l'Allemagne et Save the Children de la Grande-Bretagne, ont également décidé de garder leur navire à quai. Selon l'AFP, seule l'ONG espagnole Proactiva Open Arms, dont les deux bateaux se trouvaient hier à Malte, a assuré vouloir reprendre ses opérations de secours dès ce lundi. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.